Le coup d'envoi des Jeux paralympiques a été donné aujourd'hui et en attendant les premiers résultats, on détourne notre attention des athlètes vers les villes. Comment la tenue de ce méga événement sportif peut entraîner des retombées sur l'accessibilité des villes? On le découvre dans un instant au Signal. Kevin Breton au micro, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 9 mars. Évidemment, oui, vendredi 9 mars, c'est une date qu'on attend depuis longtemps au Signal et à Canal M. Puisque c'est le début des Jeux paralympiques et la cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu aujourd'hui. Les premières compétitions, ce sera demain. Il y a notamment l'équipe de hockey luge qui va entrer en scène contre la Suède à 5h heure du Québec. Également l'équipe de curling. On va suivre ça de très près. D'ailleurs, à partir de lundi, à chaque jour, vous allez pouvoir entendre des capsules informatives avec ma voix qui vous donne les résultats à chaque jour. Mais c'est ça, aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet, disons, un peu plus d'actualité, un peu plus de société, je devrais plutôt dire, à savoir comment est-ce que cet événement-là, qui coûte des millions, c'est pas des milliards, sert sur le plan touristique pour entraîner des touristes, mais peut aussi servir sur le plan urbanistique, à créer des villes plus accessibles. Et pour ce faire, le professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, M. Mohamed Reda Komsi, a accepté l'invitation. Bonjour, M. Komsi.
Bonjour.
Est-ce que vous allez écouter les Jeux paralympiques?
Oui, bien sûr.
Êtes-vous un fan de sport?
Définitivement.
Ouais, super.
Ouais. Ben, c'est quand même un sport, un événement qui est beaucoup plus, je dirais, intéressant sur le plan de la symbolique. Tu sais. Puis il y a vraiment des très, très, très belles histoires. Malheureusement, qu'on ne voit pas nécessairement, que c'est pas très couvert par les grands médias. Puis, malheureusement, pas plus tard que ce matin, j'ai regardé la couverture, je suis tombé debout de ma chaise. Il y avait juste un seul vraiment article, je pense que c'était sur Radio-Canada. Les autres médias, malheureusement, ils n'en parlent même pas.
On n'aimera pas les autres journaux, mais on peut se penser à des petits journaux avec des encadrés rouges écrits au blanc sur carré rouge. pour vous mettre en contexte, monsieur Komsi, on a déjà reçu à l'émission ici Mme Emmanuelle Esman, qui est présidente du Comité paralympique français. Puis on sait que Paris va recevoir les Jeux paralympiques. Et elle, dans un article dans Le Monde, elle nous disait que les Jeux paralympiques allaient faire augmenter l'accessibilité sur 20 ans sur la ville. Donc, on se posait des questions, on lui a parlé, elle nous a expliqué pourquoi. Mais on voulait avoir le point de vue d'une personne spécialisée en urbanisme. C'est pour ça qu'on vous a invité. On va pouvoir en parler un peu plus en deuxième bloc d'émission. Mais j'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu tout le processus par lesquels les villes doivent passer pour obtenir ces fameux Jeux olympiques-là. On appelle ça des bids, là. Ça se passe comment? Puisque maintenant, c'est sur de nombreuses années en plus.
Il y a comme trois étapes d'abord. La première étape, c'est vraiment une étape où la ville pose son intention, pas vraiment candidature, juste manifeste son intention d'organiser les Jeux. Et là, vraiment, c'est l'objectif vraiment d'aller chercher certains vraiment appuis au niveau vraiment des gouvernements centraux, vraiment de la population. C'est là où on a vu plusieurs villes qui ont retiré, qui sont plutôt hésité parce qu'effectivement, il n'y avait pas un soutien au niveau de la population. Puis on a vu d'autres villes à travers le monde où on a fait des référendums, puis finalement, ça n'a pas marché. Donc là, c'est comme une première étape. La deuxième, c'est plus on dépose une candidature, mais on n'est pas encore, je dirais, dans la phase finale où il y a vraiment une visite vraiment du comité de sélection, etc. Donc là, on est plus dans la promotion de l'événement. On va voir le cahier de charge, qu'est-ce qu'il contient, est-ce qu'on est capable vraiment donc de faire face vraiment aux exigences du cahier de charge.
C'est quoi le cahier de charge? Ça peut comporter, par exemple, un nombre minimal d'infrastructures, des montagnes?
Absolument. Ben, ça demande un peu, par exemple, pour chaque compétition, un peu les exigences minimales, puis à part vraiment les installations sportives, c'est évident, là, il faut avoir telle et telle chose. On pose aussi la question sur un peu, sur le plan de l'hôtellerie, sur le plan un peu des infrastructures routières, les hôpitaux, etc. Donc, parce que c'est des infrastructures de soutien qui sont là, qui doivent participer d'une façon ou d'une autre vraiment au succès ou l'échec d'un événement. Donc, tout ça, c'est intégré vraiment dans le cahier de charge. Puis, pour la partie paralympique, il y a vraiment, c'est clair, c'est indiqué comme quoi comment un peu la ville va pouvoir améliorer son accessibilité ou c'est surtout son impact pour les personnes qui sont en situation de handicap. Qu'est-ce que ça va permettre leur donner?
Ah ouais, c'est nommément clair,
c'est spécifiquement dans le cahier de charge. Puis, mais en même temps, ça reste encore, on est sur des promesses.
Tu sais. Ouais.
Le comité olympique, à la fois le CIO et le CPI, le comité paralympique international, Le rôle, c'est vraiment d'évaluer en amont ce qui va vraiment se passer, puis ce qu'il y a vraiment de la cohérence, puis est-ce que lorsque par la suite, il y aura vraiment la troisième étape, la visite vraiment donc, des personnes sur place, est-ce que vraiment ce qui était présenté, est-ce que ça a de l'allure ou pas?
OK.
Donc, c'est comme ça que ça se passe, c'est vraiment trois étapes.
Puis la première étape, vous m'avez dit qu'on sondait un petit peu comme l'opinion publique, l'opinion de la population. Est-ce que c'est vraiment névralgique que la population soit derrière l'organisation de l'événement où on pourrait voir des villes faire fi un peu du désintérêt collectif pour ça, puis quand même aller de l'avant avec une proposition?
Ben, c'est-à-dire que c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment d'avoir la population derrière. Puis honnêtement, quand je regarde dans le passé, c'est sûr qu'il y avait toujours des personnes qui contestaient un peu la tenue de ces Jeux, surtout pour des questions économiques, là. Je reviens à Drapeau en 1965, j'étais chez
Ici même
nous,
à Montréal,
c'est
oui.
absolument à Montréal. Puis là, ce qu'on regarde dans l'histoire, c'est vraiment les problèmes qu'il y a eu des Jeux, mais en même temps, on gardait l'exploit des Jeux, etc. Mais avant vraiment le début des problèmes, vraiment de la construction, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas d'accord, qui ne voulaient pas organiser dans cet événement. Donc, parce que, mais en même temps, on surfait beaucoup sur le succès de l'Expo 67 parce qu'on sortait vraiment, c'est un grand événement, puis on a bien réussi, puis on a donné de la visibilité à Montréal, donc on voulait aller là. Mais ceci dit, si vous fouillez un peu dans la littérature, vous trouvez des gens qui n'étaient pas d'accord
Dès l'époque.
dès l'époque, là.
Puis, puisqu'on parle de Montréal, est-ce que j'ai déjà lu un article à votre sujet, vous parliez de l'héritage urbanistique de l'Expo 67 à Montréal. Bon, il y a le stade olympique qui est un legs assez majeur, mais est-ce, outre ça, est-ce que par le développement des quartiers ou autre, on peut voir comme que sur le plan urbanistique, les Jeux olympiques ont changé Montréal?
Honnêtement, c'est gros à dire parce que les Jeux ont changé Montréal. Moi, parce que j'avais fait à l'époque ma thèse là-dessus, c'est vraiment sur l'impact des grands événements sur Montréal. Puis j'avais travaillé justement sur l'Expo, sur les Jeux, puis sur le 350e. Puis j'avais vraiment démontré comme quoi ça n'avait pas vraiment eu grand-chose, vraiment, comme grand impact sur, je dirais, sur le plan des infrastructures. Là, je parle vraiment des Jeux. L'Expo, ça l'était parce qu'il y en avait vraiment plusieurs infrastructures qui ont été inauguré à l'occasion de
Le
l'expo.
métro,
Ben, vous voyez, le métro dans l'imaginaire public,
non?
c'était vraiment à cause donc de l'expo. Or, quand on fouille un peu plus, c'est un projet qui était là depuis le début vraiment du siècle. C'est que, et alors, je pense autour de 1960, là, Montréal n'était pas encore désigné comme ville vraiment hôtesse vraiment donc de l'événement. On commençait à travailler déjà sur le projet de métro 1960. C'est 2 ans après que Montréal va être plutôt, donc va avoir
Obtenu.
obtenu l'expo. Mais encore une fois, on garde comme quoi c'était le mal drapeau. Ben, et là aussi, il a mérite là-dedans parce qu'il a vraiment fait, je dirais, accélérer les choses. T'sais. Donc, il y a eu vraiment un impact de 67. 76, au niveau surtout de l'image, mais surtout au niveau touristique, ça a permis vraiment d'avoir une image comme quoi Montréal, c'est une ville importante, intéressante. Et donc là, par la suite, on a vu le nombre de congrès à Montréal à partir de 1976 est remonté au-dessus de 300 événements, puis ça n'a jamais redescendu au bout de ce chiffre-là.
Donc c'est comme un
Ah oui,
point
c'est un point
un
d'inflexion.
critique
Oui,
là.
mais ce n'est pas vraiment, je dirais, une transformation majeure. Contrairement au
50e.
350e, c'est un petit événement comparativement aux Jeux, mais ça a eu beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce que on savait à l'époque, il y a vraiment même un changement au niveau de l'administration municipale. Puis ce qu'on s'est dit, Montréal se positionne désormais comme une métropole culturelle. Puis toutes les installations qui sont venues par la suite, ils sont venus consolider un peu ce positionnement-là. C'est les musées, par exemple, l'agencement du Vieux Montréal, etc. Donc il y avait comme une thématique, puis on essaie de développer une thématique autour de ça. Alors contrairement aux autres, puis quand on fouille un peu dans la phase préparation donc des Jeux Olympiques de 76, c'est par exemple sur la dimension touristique, c'était vraiment quelque chose qui était. Il y avait un seul représentant du ministère du Tourisme, il était sur le comité de gestion donc de la circulation. C'est pour ça d'ailleurs on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec le stade jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait pas vraiment une planification
On n'a pas pensé
en
le
amont.
stade, qu'est-ce qu'allait servir une
Ben,
fois à la cérémonie de clôture.
honnêtement, avec tous les problèmes qu'il y a eu dans la phase de construction, c'était pratiquement le dernier
C'est le
souci.
dernier des sauts.
On voulait juste sauver vraiment la mise.
Finalement, ça a servi de toit aux expos pendant quelques
Depuis
années, mais
quelques
c'était
années,
pas
c'est vrai.
prévu à ce
C'était
moment-là.
pas prévu, pas du tout.
Puis pour l'Expo 67, il y a une île, non, qui a été
Oui.
construite spécifiquement pour ça. Fait que quand on parle d'un changement urbanistique, là, difficile d'avoir un meilleur exemple.
Absolument. Donc, les îles étaient vraiment. L'expo a eu vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment construites autour de l'expo. Les îles, vraiment le métro. Puis il y avait vraiment. Il y avait quand même déjà une dynamique à Montréal qui était bien enclenchée sur le plan urbanistique. Il y avait beaucoup de gratte-ciel, des centres-villes qui se développent. Puis le maire Drapeau aussi a parlé des années 60 de Montréal à l'horizon 2000 avec une vision de 7 millions d'habitants à l'époque, etc. Donc là, il y avait une vision. Puis l'expo est venu un peu consolider cette vision, puis faire, je dirais, faire, comment dirais-je, il y avait des événements, puis il y avait vraiment donc des constructions qui étaient autour, puis on a dit, c'est vraiment le moment pour faire tout ça en même temps, parce qu'il y avait un deadline qu'il fallait respecter. Contrairement au jeu, on a été beaucoup plus dans les problématiques de gestion du chantier.
Est-ce que c'était mieux planifié, l'Expo 67, sur le plan urbanistique, ou...
Honnêtement, je dirais...
C'est dur à dire, parce que...
C'est dur à dire, mais oui et non, dans le sens où on l'a eu dernière minute, parce que dans le fond, on avait postulé aux années 60, mais on l'avait pas eu. Si on l'a eu parce que la Russie s'est désistée vraiment en 1962. Puis, en même temps, moi, ce que j'ai démontré clairement, c'est qu'il y avait des choses qui étaient déjà là. Le seul mérite, en quelque sorte, de l'Expo 67, c'était vraiment d'accélérer les choses.
Okay, ouais.
Et ça, c'est vraiment bien important. Puis, on va en parler dans la deuxième partie.
Ça fait.
C'est qu'il y a souvent des projets qui sont en cours, puis les jeux vont venir souvent accélérer vraiment le rythme vraiment de réalisation, plus que vraiment de mettre en place de nouvelles choses.
Ça prend comme une base, une certaine structure.
Définitivement.
Puis ça va effectivement nous emmener sur la deuxième partie de l'émission, mais avant de se rendre, parce que puisqu'on parle de Montréal spécifiquement, moi je suis quand même curieux parce que, tu sais, Montréal n'a pas reçu les Jeux paralympiques de 1976, c'est Toronto qui les a reçus. Puis aujourd'hui, 25 ans plus tard, moi, quand je visite Toronto, ben, je réalise que le métro est deux fois plus accessible. Bon, c'est pas tout qui est accessible. Le tram, oui, n'est pas accessible, mais ça reste une ville qui semble un peu plus accueillante pour des personnes handicapées. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre la tenue des Jeux paralympiques à Toronto puis la non-tenue des Jeux paralympiques à Montréal?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire cette corrélation-là, mais encore une fois, il faut vraiment étudier la question de l'accessibilité sur l'ensemble du territoire de la ville. T'sais, souvent, les Jeux, ils ont toujours dans un périmètre très limité, puis souvent l'amélioration d'accessibilité, on va le voir dans ce contexte-là. Est-ce que vraiment, est-ce que les gens, ils vivent uniquement dans le centre-ville? Clairement, la réponse est non. Les gens, ils vont un peu partout dans la ville. Et donc, oui, il y a une amélioration, mais à mon avis, ça reste vraiment très circonscrit, vraiment dans un lieu très précis. Petit rayon, oui.
Super intéressant. Mohamed Reda Komsi, qui est professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, qui est avec nous pour nous parler de l'impact des Jeux paralympiques ou des Jeux olympiques sur l'urbanisme des villes. On va continuer d'en parler un petit peu plus en profondeur dans un instant, après ce pont musical. De retour au signal, on va continuer de parler de l'impact sur l'accessibilité, sur l'urbanisme, de la tenue de méga événements sportifs. J'en profite pour vous inviter à aller lire un article qui se trouve dans la Tribune, c'est très facile de le trouver. Le titre, c'est « Tokyo, les Paralympiques pour changer toute une société », du journaliste Jonathan Cousteau, qui a rencontré le gouverneur de Tokyo, qui lui, aussitôt qu'on commence à lui parler des Jeux paralympiques, va tout de suite soulever la question de l'accessibilité, puis dire ben, « au Japon, en plus, c'est une démographie qui est très vieillissante ». Puis eux voyaient vraiment l'urgence, puis ça a même été un argument de vente pour recevoir les Jeux paralympiques. Pensez-vous que ça va éventuellement devenir un argument pour les villes de recevoir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques en disant « ça va nous servir de créer des infrastructures qui vont servir à la population »
Moi, je suis pas mal persuadé que ça arrivera. Puis on le voit, si on analyse un peu les Jeux d'hiver, qui sont pas, ma foi, ça date pas vraiment d'une centaine d'années, c'est depuis maintenant quelques décennies. Il y a vraiment un train, donc on est vraiment en montant crescendo pour l'amélioration de l'accessibilité. Mais encore faut-il, je reviens à mon point que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'accessibilité va s'améliorer uniquement dans le périmètre vraiment du village olympique, puis vraiment du stade olympique? Ça reste à voir. Mais j'ose croire que quand j'ai vu un peu le dossier de candidature de Paris 24, puis vous avez reçu la représentante ici, je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus. Puis il y a un plan au-delà un peu d'un périmètre bien particulier. Puis le stade sera par la suite reconverti en vraiment dans des logements. Pardon, le village plutôt va être reconverti en des logements vraiment pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc il y a un travail à faire. Puis surtout, moi c'est ce que je dis, il y a le leg, surtout on va focuser beaucoup sur le leg matériel ou vraiment donc bâti, mais il y a vraiment un leg qui immatériel qui est vraiment la prise de conscience. Puis ça par exemple en Chine, beaucoup par exemple au Brésil, il y a eu beaucoup de conscientisation autour vraiment de l'événement. Il y en avait pas vraiment, il y avait pas beaucoup d'impact sur le plan je dirais du bâti, mais il y a vraiment beaucoup de prise de conscience. Au début, ça a mal démarré, les ventes des billets n'étaient pas vraiment nécessairement je dirais en hausse. Mais là, une fois que l'événement a démarré, là, finalement, tu sais, il y en avait des journées qu'on a comparées où il y avait beaucoup plus de personnes au stade dans les Jeux paralympiques que vraiment dans les Jeux olympiques.
Dans les Jeux de Pékin, ça?
Non, ça, c'est vraiment de Rio.
De Rio, d'accord.
Oui. Donc là, il y avait vraiment une prise de conscience, puis il y a une certaine, levée curiosité. De bouclier, absolument. Ben, en même temps, tu sais, quand on voit l'événement qui se répète chaque jour, c'est au-delà vraiment d'une curiosité, c'est une prise de conscience donc qui était là, puis ça, on le voit d'une année à l'autre.
Mais ça, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que certaines villes, parce que vous m'aviez parlé en pré-entrevue de certaines villes, que ça s'est divisé en trois mouvements, en fait, le mouvement paralympique, et puis qu'il y a vraiment eu un changement de perception en 2012 avec les Jeux de Londres, parce que vous nous parlez de retombées immatérielles, puis c'est un peu ça, depuis les Jeux de Londres, effectivement, on sent qu'il y a un plus grand engouement pour les Jeux paralympiques, puis aussi une plus grande responsabilité pour les villes de dire « OK, ces athlètes-là, il faut les accommoder. Quand on va les accueillir dans notre ville, on ne veut pas qu'ils soient obligés de prendre le transport adapté. On veut qu'ils puissent prendre le métro comme tout le monde. »
Absolument. Ben, pour expliquer un peu à nos auditeurs, un peu les trois étapes, c'est que des années 60, lorsqu'on a commencé vraiment les premières éditions donc des Jeux, là, il y a vraiment, je dirais, des Jeux qui étaient organisés dans une vue pas nécessairement la même que celle vraiment donc des...
Comme à Montréal.
Comme à Montréal, exactement. Comme donc, la même ville qui reçoit les Olympiques. Par la suite, c'est vraiment 88, où il y a vraiment les Jeux de Séoul, où là, il y a vraiment un switch. Là, il a dit, ben là, il faut l'événement commence à prendre de l'ampleur. Puis là, on a décidé que ce soit vraiment que ce soit dans la même ville. Puis surtout, moi, je pense que c'est vraiment le point tournant, c'est vraiment la création de l'IPC, c'est vraiment la création du Comité international olympique, paralympique. Donc, lui, il a pris vraiment en charge, je dirais, l'événement, parce qu'il y avait, c'était comme un événement secondaire de, donc, des Jeux. Et là, il dit, ben, il y a un événement, des gens qui travaillent tout au long de l'année, que pour préparer les Jeux. Parce que, dans le fond, nous, on voit les Jeux à chaque 4 ans, mais dans le fond, c'est chaque 2 ans, parce que c'est vraiment hiver-été. Donc, ça arrive vite, là, tu sais. Et donc, ils ont commencé à travailler là-dessus. Il y a un cahier de charge dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est quand même plus établi. Puis on commence à poser la question dans le cahier de charge, clairement, qu'est-ce que ça ramène pour les personnes en situation de handicap dans votre ville, puis surtout aussi pour la société, pour le sport. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces Jeux-là, au-delà un peu de la question sportive, tu sais, des jeunes qui vivent une situation de handicap, ils voient ça, ils sont jeunes, puis ils regardent. Mais moi aussi, un jour, je ne suis pas vraiment bloqué avec ma situation, je peux vraiment aller au sommet. Et donc, du coup, sur le plan immatériel, ça peut vraiment devenir une source vraiment d'inspiration. Mais encore faut-il que, au-delà de la question un peu du stade, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que même les écoles aient vraiment cette accessibilité. Or, ce qu'on constate, pas toujours le cas.
Parce qu'on veut pas que, par exemple, le stade soit accessible, mais qu'il n'y ait pas de transport pour se rendre au stade, ou encore que l'étudiant puisse pas se rendre à l'école avant.
Ben oui, parce que veut pas, les Jeux, c'est vraiment un stade final. Il y a toute la partie des entraînements, vraiment la formation de ces jeunes-là, etc. Qui, ben, si vous n'avez pas les installations, il y a personne qui va se rendre au bout du chemin. Tu sais. Donc là, c'est tout le travail. J'ai dit la prise de conscience qui doit se faire en amont, de dire, ben, écoutez, ces Jeux sont vraiment qui vont nous permettre vraiment d'avoir par la suite une stratégie ou de l'accessibilité. C'est plus de dire, ben, l'accessibilité pour nos jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les motiver. Comme quoi, leur handicap, c'est pas vraiment la fin du monde. Ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Puis ils peuvent aller vraiment au sommet du monde. Donc ça, c'est vraiment un événement important. Puis les Jeux de Londres, ils ont contribué aussi à ça. Parce qu'en 2012, ils ont parlé, tu sais, il y avait une photo qui a fait le tour du monde. C'est vraiment donc des athlètes paralympiques, puis c'est des super-héros.
Ouais, ils ont vraiment joué sur cette image-là. Là.
Définitivement. Puis ça a capté l'imaginaire.
Un grand succès, parce qu'effectivement, une personne qui s'intéresse au sport, mais qui n'a jamais vu vraiment les paralympiques, puis qui voit une personne double amputée nager le bras sous le crawl, ça suscite l'intérêt,
ben oui,
certainement. Vous m'avez quand même dit en début d'émission que dans le cahier de charge, ça restait des promesses. C'est difficile à mesurer après dans le futur parce que, bon, là en ce moment en France avec les Jeux de Paris, au début on se disait on veut rendre le métro accessible d'ici cette date-là. Là, ça a été discuté à l'Assemblée nationale. Ça semble être tout un fouillis parce que le métro de Paris, c'est difficile à rendre accessible. On ne sait pas si ça va se faire vraiment, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une espèce de suivi ou de reddition de compte sur les promesses qui sont faites dans le cahier de charge, puis qu'est-ce qui va se produire? En fait, j'imagine que c'est un peu la question de la politique en place, là.
Ben, définitivement, puis tu sais, la politique, là, vraiment change très rapidement. Puis moi, je dis toujours, le ton politique est généralement beaucoup plus, par la force des choses, est beaucoup plus limité que le ton des jeux. Tu sais, le ton politique, il a une personne qui a une responsabilité publique, il l'a pour 4 ans ou 5 ans, puis il doit rendre des comptes. Puis souvent, ces questions-là, c'est vraiment, il y a un effet à moyen ou long terme. C'est pas ça qui va vraiment dire, tu sais, qui va vous faire gagner des élections, dire bah, j'ai amélioré l'accessibilité. Tu sais, et puis, dans le fond, les gens ils vont avoir pensé qu'est-ce que ça va être rentable à moyen, puis ça, surtout le prisme économique, économiquement, qu'est-ce que ça va rapporter. Mais en même temps, ces affaires-là, c'est vraiment ça se travaille sur le long terme, ça prend des stratégies, puis il fera une succession d'idées. Le gouvernement qui va venir par la suite doit avoir être un peu dans le même logique, etc. Donc, je dirais, mais il y a une reddition de compte qui se fait vraiment pour le CIO par la suite, pour dire il y a un comité, parce qu'il y a un rapport final qui sort, ça dépend une année à 2 ans après la fin de l'événement pour dire voici ce qu'on a réalisé. Mais c'est vraiment la société en tant que telle qui doit vraiment faire ce suivi, puis toutes les associations, les comités vraiment, donc des personnes qui sont en situation de handicap qui vont vraiment faire en sorte. Mais surtout lorsqu'il y a une politique nationale globale, et peut-être vous avez lu ça, à Paris, il y a eu toute une discussion, puis les gens qui étaient un peu, les associations qui défendent des personnes en situation de handicap, ils ont aimé un peu que le projet, mais ils étaient un peu, je dirais, choqués parce qu'ils ont dit, bah, vous avez attendu les Jeux pour mettre en place des projets qui étaient là depuis quarantaine d'années.
C'est
Donc,
ça.
oui, donc.
Surtout qu'en France, il y a une loi, tu sais, depuis 2005. OK, mais là, normalement, cette loi-là aurait censé donner l'impulsion pour l'accessibilité. Pourquoi est-ce que ça doit être la tenue de jeu, tu sais?
Exact, là, pratiquement 20 ans après,
Hein?
2005 à
C'est
2024, tu sais.
vrai. Puis on peut même faire le même constat entre Toronto et Montréal. Toronto a une loi sur l'accessibilité beaucoup plus restrictive. On ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule, si c'est les Jeux qui ont donné l'idée de la loi ou la loi qui a donné l'idée d'avoir les Jeux paralympiques, mais le résultat concret aujourd'hui, c'est que Toronto est une ville plus
Ben
accessible.
oui, tu sais, au bout du compte, là, c'est ce que ça va donner comme résultat. Puis, tu sais, on s'adonne à la politique, c'est vrai qu'il faudrait avoir, tu sais, une reddition de compte puisque les politiciens vont embarquer, mais au bout du compte, ce qu'on espère le plus, c'est qu'il y ait vraiment une amélioration de l'accessibilité. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire le focus, puis il faut que les associations aussi se mobilisent à l'intérieur. Puis, je pense à Montréal, on a vraiment donc un réseau vraiment donc d'associations qui travaillent un peu dans ce sens-là. Puis, s'il y a vraiment, je dirais, un suivi vraiment du dossier, ça devrait aboutir, tu sais.
Un mot en terminant, puisque le temps file, on n'a pas parlé beaucoup de l'aspect touristique, mais autant pour les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, est-ce que ça a vraiment un engouement sur la venue de touristes dans les villes hôtesses?
Y a un engouement touristique le moment un peu des Jeux. Il y a des choses qui peuvent se réaliser après, mais ce qui a été documenté dans la littérature, généralement, il y a un effet 2, 3 années après la tenue de l'événement. Après ça commence à s'essouffler parce qu'on commence déjà à parler
Prochain.
de l'autre ville. Mais en même temps, c'est comme un peu quand je parlais de Montréal, ce qu'il faut dire, ben, à l'occasion d'un événement, il faut dire qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Parce que les événements sont par nature éphémères. Ils sont là 15 jours, 1 mois, 6 mois, donc ça dépend. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si vraiment on va profiter des Jeux pour mettre en place, développer un peu un créneau culturel, ben, vas-y, c'est ça qu'on va faire. Mais si, et ça c'est démontré même au niveau de l'accessibilité, si vous n'avez pas vraiment une politique bien établie avant, puis une vision de ce que vous voulez faire par la suite, les gens vont améliorer les choses, mais vraiment de façon marginale. Il faut vraiment avoir cette visibilité à moyen long terme.
Super, merci beaucoup, monsieur,
Plaisir.
comme si t'es venu aujourd'hui en
Un
studio pour
plaisir.
nous éclairer là-dessus. Vraiment une discussion intéressante. Nous, on s'en va lire quelques nouvelles en bref. Puis après ça, ben, je remercie tout le monde avant la fin de l'émission. 'Le fondeur malvoyant Brian McKeever, 10 fois médaillé d'or paralympique, portera le drapeau du Canada aux Jeux paralympiques de Pyeongchang à la cérémonie d'ouverture. McKeever, 38 ans, mènera une délégation de 55 athlètes. C'est tout un honneur, dit-il. C'est très gros. Le moment est parfait puisque je suis à la fin de ma carrière. Ça vient boucler la boucle et c'est vraiment excitant d'avoir une chance pareille. Je suis compétitif, ce qui veut dire que je vais peut-être essayer de rattraper les équipes devant nous, a-t-il dit à la blague à propos de la cérémonie d'ouverture. Il faudra qu'on me tienne en place, c'est une bonne chose avec un gars aveugle. il y a 4 ans à Sochi, McIver a gagné 3 médailles d'or, 2 avec le guide Eric Carlton et une autre avec Graham Nishikawa. Nishikawa l'accompagnera encore cette année à Pyeongchang et pourrait l'aider à devenir l'athlète canadien le plus décoré des Jeux paralympiques d'hiver. L'athlète de l'Alberta a 13 médailles paralympiques dans sa collection, un record qu'il co-détient avec l'ancienne athlète de ski paralpin Lana Spreeman. Le 28 avril prochain aura lieu la classique Chantal Petitclerc, le premier événement uniquement paralympique du circuit québécois d'athlétisme. Organisée dans le cadre du défi sportif Altergo, la compétition se déroulera au complexe Claude Robillard à Montréal. Les participants pourront concourir aux 100, 200, 400, 800 ou 1500 mètres selon les catégories habituelles de la fédération. Cet événement vise à réunir le monde du paraathlétisme, mais aussi à faire découvrir le sport. La compétition sera suivie d'une séance d'initiation. Vous avez jusqu'au 9 mars pour vous inscrire, donc jusqu'à aujourd'hui. L'équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant sera au Vancouver Invitational 2018 ce week-end. Il s'agit du dernier tournoi préparatoire en vue des championnats canadiens qui se dérouleront à Calgary en mai 2018. Le Québécois Patrice Simard en sera à son premier tournoi avec l'équipe du Québec depuis janvier 2017. Il s'était blessé juste avant le dernier événement à Vancouver et n'avait pu participer au championnat canadien. Il sera accompagné de Guillaume Bouchard, de Yannick Racicot, Steve Mastin, Anthony Letourneau et Fabien Lavoie. Je vous invite à écouter le documentaire « Le Hibou, ça change des vies » à l'occasion de leur 39e saison. Les Hibou ont ouvert leurs portes à une équipe de tournage d'Amis Télé. Ça fera le cadre d'un reportage diffusé dimanche le 11 mars à 19h, rediffusion mercredi 16h et jeudi 21h. Et en terminant, plus de la moitié des Canadiens prévoient regarder les Jeux, les compétitions paralympiques à Pyeongchang selon un sondage qui a été réalisé par la banque CIBC. C'est 58% en fait des Canadiens qui prévoient regarder les Jeux paralympiques. Les sports les plus intéressants selon eux sont le para-hockey, suivi de la planche à neige et du para-alpin. Ça met bien la table pour notre sujet la semaine prochaine. On en a parlé d'ailleurs avec notre invité aujourd'hui, M. Comissi, de la couverture médiatique. La semaine prochaine, c'est le professeur à l'Université du Québec à Montréal, Bernard Motulski, que vous connaissez peut-être, qui sera avec nous pour nous en parler. Je termine en vous invitant à aller lire le texte de Jérôme Gaudreau dans la tribune dont je vous ai parlé, pour en apprendre plus sur les retombées urbanistiques des Jeux paralympiques. En prenant l'exemple de Tokyo, vraiment une excellente émission. Merci à Mathieu à la réalisation et à la mise en ordre. Merci à Christiane Campagna aux communications. Et merci à notre invité de la semaine, M. Comissi, d'être venu aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, gardez le sourire.